Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes, écrivait Paul Nizan dans son livre Adan Arabi. Ils ont 20 ans, ou 13, ou 15, ou 17 ans. Ils sont adolescents, plus vraiment des enfants, pas encore des adultes. Ils sont coincés là, dans ce corps qui se joue d'eux, cette métamorphose en accéléré, cette mutation d'eux-mêmes, sur laquelle ils n'ont que peu de prise. Ils se tiennent en équilibre entre un monde qui périt et un autre qui s'ouvre. L'adolescence est un vaste, profond, sensible sujet de réflexion dont le théâtre, au fond, ne s'approche pas souvent. Pourquoi ? Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre adolescent d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui, même millénaire, a su rester un éternel adolescent. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Clément Hervieux-Léger.
Bonjour.
Vous mettez en scène à la Comédie Française L'éveil du printemps, pièce superbe écrite par Franck Wedekind en 1890. Beaucoup d'adolescents, quelques adultes, les parents et les professeurs habitent cette tragédie enfantine qui, au fil d'une dramaturgie explosive, brasse le réel et le fantasme, de la solitude au suicide, du sentiment de sa différence au désir sexuel. Beaucoup de choses sont dites dans la pièce qui nous éclairent sur ce qui secoue intérieurement les adolescents. Et sur le plateau, il faut parvenir à tout faire entendre, ce que vous faites admirablement, avec l'appui d'une troupe impeccable menée haut la main par Georgia Scalier, Sébastien Poudroux ou encore Christophe Montenez, qui incarne trois des principales figures adolescentes de la pièce. C'est pour ça que je n'y cite que, mais ils sont en réalité beaucoup plus nombreux. Première question, Clément Hervieux-Léger, elle porte sur ce titre « L'éveil du printemps ». Parce que si on relit cette pièce et si on regarde votre spectacle, le texte de Wedekind aurait tout aussi bien pu s'appeler « La fin de l'été ». Finalement, est-ce qu'un titre donne une tonalité à la mise en scène, une couleur, une humeur ?
Oui, sans doute, d'autant que d'abord c'est un très beau titre, L'éveil du printemps.
C'est vrai.
Et je pense que la pièce, qui est quand même très un peu mythique dans le milieu théâtral, même si elle n'est pas forcément très connue en réalité dans son intégralité, le doit beaucoup à son titre, qui est d'une poésie magnifique. Oui, elle donne une tonalité à la mise en scène, d'autant que c'est une pièce très climatique, mais paradoxalement, dans la pièce, il est peu question de printemps en termes de saison à proprement parler. Le printemps, cet éveil, c'est d'abord les adolescents eux-mêmes et ces corps-là. Et c'est moi ce qui m'intéressait le plus. C'était pas tellement, et d'ailleurs je crois que Wedekind ne souhaitait pas une représentation naturaliste de pommiers en fleurs pour évoquer le printemps. Ce qui lui importait, et ce qui était fou à l'époque à laquelle il écrit la pièce, c'était de s'intéresser à cette sève dont on parle parfois quand on parle de l'adolescence. Et pour moi, le printemps était d'abord à aller chercher chez chacun des interprètes.
Alors, on suit le parcours dans ce spectacle et dans cette pièce, Clément Hervieux-Léger, de plusieurs adolescents. L'une va devoir avorter, l'autre se suicide, un troisième est très mal dans sa peau. D'autres encore sont en butte à un système éducatif contre lequel il est finalement difficile de se rebeller. Je dis on suit le parcours, c'est pas si juste que ça, parce que la pièce n'est pas une narration si linéaire non plus. Elle est composée de manière assez atomique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est vrai, c'est pas du tout une narration linéaire. Il faut voir d'abord que Wedekind avait une grande fascination pour le cirque, pour le cabaret. Et on se rend compte dans sa dramaturgie qu'on est plus proche de numéros qui se collent, qui se contrarient, qui viennent se pousser les uns les autres, plus que dans des scènes qui viendraient effectivement construire une narration plus classique. C'est ça qui me passionne. Je trouve qu'il y a quelque chose presque d'assez cinématographique avant l'heure, parce que quand même, on passe d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre, de manière très très directe. Enfin, c'est assez époustouflant, et on passe, ce faisant, d'un état à un autre. Et je me disais ça, c'est que quand on connaît un peu les adolescents ils sont capables de rire ou de pleurer d'une minute à l'autre. Vous parlez avec un adolescent qui a l'air absolument joyeux, puis la seconde d'après, il fond en larmes, et il est très sincère et profondément malheureux au moment où il fond en larmes. C'est assez fascinant. Et je connais pas d'autres personnes dehors des adolescents que les acteurs pour passer d'un état à l'autre de cette manière-là. Et ce travail sur l'état, sur le climat, finalement, c'est ce qui m'a particulièrement passionné dans cette pièce.
Mais est-ce que vous ne diriez pas, justement, de l'écriture, ou plutôt de la structure, de la dramaturgie de la pièce, justement, Clément Harvieu-Léger, qu'elle est presque un palimpseste de ce qu'est l'adolescence, dans ses incohérences, dans ses surgissements, dans ses...
Je pense que la structure elle-même raconte l'adolescence. Et d'ailleurs, ce qui est beau aussi, c'est que tous ces adolescents ne font qu'un. C'est-à-dire que finalement, ils font l'adolescence à eux tous. C'est difficile de savoir ce qu'est un adolescent. Et là où Wedekind est très fort, c'est que en suivant plusieurs d'entre eux, des figures, des personnages, certains dont ils développent davantage l'histoire, vous avez cité Wendla, Melchior, Moritz, et puis d'autres qu'on voit plus furtivement, mais qui n'en sont pas moins importants. Par exemple, quand même, il y a cette scène magnifique entre Ernst et Hans, qui est le seul moment où deux adolescents se disent « je t'aime », il le fait quand même dire à deux garçons. Encore une fois, c'est en 1890. Ce qui est beau, c'est que on passe entre leurs rêves, leurs fantasmes, leurs désirs, leurs contrariétés et leurs angoisses. Et quand on met bout à bout les sentiments profonds de chacun d'entre eux, on a une sorte de paysage de l'adolescence.
Est-ce que vous auriez pu monter ce texte il y a 10 ou 20 ans? Vous avez une toute petite quarantaine d'années. Qu'est-ce que ça suppose de la part du metteur en scène comme savoir, ou peut-être même comme sagesse, ou alors à l'inverse comme totale inconscience?
Il faut un peu des deux. Alors j'ai l'impression d'être au milieu du guet, justement, c'est ça qui est bien. Mais ce qui est certain, c'est que en fait cette pièce, on la connaît souvent à l'école quand on est jeune comédien, parce que on cherche des rôles proches de son âge. Donc on a envie de jouer Roméo, mais on a aussi envie de jouer des adolescents. Et évidemment, les scènes de l'éveil, elles sont formidables à travailler. Et pour tout dire, j'ai accompagner les élèves du Conservatoire National l'année dernière sur leur atelier de troisième année. Je m'étais posé la question de monter l'éveil avec eux. Et je me suis dit, mais je suis pas sûr, en fait, que ce soit une pièce qu'il faille mettre entre les mains ils sont plus des adolescents, mais en tout cas de jeunes comédiens, parce que ça demande un tel travail d'acteur, c'est quand même tellement complexe qu'il y a à incarner, que je crois que ça demande déjà une certaine maturité. Et ce qui était beau à la Comédie Française aujourd'hui, c'est qu'il y a la troupe pour ça. Et je crois, au-delà d'ailleurs de mon propre parcours à moi, j'ai l'impression que pour un metteur en scène, il faut, pour monter cette pièce, avoir la bonne troupe au bon moment, si j'ose dire. Et j'avais ce sentiment-là actuellement à la Comédie Française, parce qu'il y a effectivement des jeunes acteurs qui sont rentrés après moi, pour lesquels j'ai une immense admiration. C'est-à-dire que je vais les voir en scène, ils me fascinent, et j'étais très très heureux de travailler avec eux.
Alors je voudrais qu'on écoute dans cette émission, Clément Harvieu-Léger, la voix de quelqu'un qui ne vous sera pas totalement étranger, même si vous ne l'avez pas connu. Vous allez très vite comprendre le lien. Il s'agit de Pierre Roman, compagnon de route de Patrice Chéreau, avec qui vous-même vous avez longuement travaillé. On va y revenir après. Pierre Roman a lui aussi monté L'éveil du printemps. Il en parlait en 1976 au micro, on l'écoute.
La pièce traite du problème de l'adolescence. Il y a 8 adolescents, il y a un homme masqué qui est sans âge, et il y a 7 adultes entre les mères, les pères et les professeurs. Il n'était évidemment pas question d'aller dans une composition, quelle qu'elle soit, aussi bien la composition de l'enfance que la composition des adultes. Donc il fallait trouver un parti pris qui, sans faire un contresens sur la pièce, sans la trahir, puisse faire que tout le monde y trouve son compte sans aucune composition. Bon. On a donc cherché un parti pris global. Il s'agissait pour nous de donner une imagerie qui passe par les yeux de ces enfants. Et on a choisi, pour des tas de raisons, l'imagerie wagnérienne. L'imagerie wagnérienne parce que on pouvait y retrouver des rapports avec l'Antiquité, qui est très important dans la pièce, puisque les enfants y font sans cesse allusion, puisque c'est leur mode d'éducation. On pouvait également y trouver des rapports avec l'opéra, dans tout ce qui concerne l'espace, la physiologie, le climat de la pièce, qui sont vraiment des notions capitale et définitive, surtout en ce qui concerne le monde de l'enfance, que ce soit les rêves, que ce soit les fantasmes, ou même la réalité. Tout ça se mélangeant. Bon. Il s'agissait donc de faire de ces enfants des gens qui appartiennent à une époque réelle, c'est-à-dire 1891, la fin du 19e siècle, l'année à laquelle a été écrite la pièce, et de faire des adultes des gens un peu intemporels appartenant à un même monde qui est ce monde de la mythologie wagnérienne, donc un monde de dieux. En plus, ça nous paraissait possible dans la mesure où les enfants ont toujours tendance à prendre un peu leurs parents pour des dieux. Parce que il y a une espèce d'image de puissance illimitée, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la colère, que ce soit dans la passion, on a toujours le sentiment que c'est très fort, que ça existe très fort, que c'est très puissant.
Voilà Pierre Roman qui dit comment, au fond, il a été obligé de radicaliser la séparation adulte-enfant en choisissant symboliquement de ne pas les faire évoluer dans le même monde, ce qui n'est pas, je crois, votre approche sur le plateau, non. Clément Hervieux-Léger.
Non, pas du tout. C'est drôle parce que justement, Pierre Roman avait fait ce travail avec des élèves du conservatoire au départ, lui. Et il avait donc choisi des comédiens presque à la limite de l'âge des rôles. Je n'ai pas fait ce choix d'abord parce que on parle, là, on est en train d'en parler, des adolescents de manière assez évidente. En 1890, la notion même d'adolescence n'existe pas. Et à vrai dire, il faut attendre le premier ouvrage qui s'intitule Les adolescents, quand les teenagers. C'était en 1962, Peter Bloss aux États-Unis qui écrit un premier ouvrage qui leur est consacré comme une sorte d'entité. Or aujourd'hui, les ados, ça nous est familier, mais c'est encore une fois, c'était un moment, au moment où Wedekind l'écrit, où il y a l'enfance d'un côté, et puis les adultes, et puis une sorte de no man's land, les jeunes peut-être, la jeunesse, mais en tout cas, on ne la définit pas socialement, comme on l'a fait plus tard. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi... Au-delà de la lecture psychanalytique, on y reviendra sans doute, mais c'est vrai qu'il écrit ça 15 ans avant les essais sur la théorie sexuelle de Freud, mais que, bien entendu, Freud s'est emparé de cette pièce parce qu'elle est fascinante d'un point de vue psychanalytique. Il donne aussi une vraie lecture sociale. Et moi, ça m'intéressait de me poser la question du groupe. Au-delà de ces singularités, de ces individus dont on a parlé, des ados comme groupe, parce qu'on se rend bien compte que c'est très fort quand on voit aujourd'hui la manière dont ils se construisent. Et d'ailleurs, ils se construisent souvent en fonction de l'autorité parentale d'une part et de l'autorité professorale de l'autre. Et puis, ils organisent leur propre petit système social. Et ça m'importait. En fait, et pour ce faire, il fallait justement que tout le monde navigue dans le même monde. Voir comment un groupe se construit au sein même d'une société plus complexe, faite d'adultes. Mais j'avais l'impression que si je les sortais entièrement d'un groupe plus large, qu'est la société, alors je les ostracisais. C'est pas exactement ça qui se passe. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se construisent à partir ou en fonction. Et c'est aussi pour ça qu'en revanche, j'ai décidé, moi, de mettre l'époque, enfin le choix notamment des costumes, plutôt vers les années 50-60, y compris parce que c'était aussi des références même à la fureur de vivre, par exemple, cette figure de l'adolescent absolu qu'est James Dean, alors qu'il n'a pas du tout l'âge d'un adolescent quand il tourne ça. Et puis parce que j'avais l'impression que ça permettait de rapprocher cette pièce qui est quand même fascinante de modernité, et en même temps de garder, par exemple, le caractère non mixte de l'école, le rapport encore à une société plus corsetée que n'est la nôtre aujourd'hui, même si tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Mais donc j'avais, avec Caroline de Vivez qui a réalisé les costumes, on s'était dit que c'était un moment qui, historiquement et socialement, était assez favorable pour raconter cette histoire.
Alors, sans faire de la psychanalyse au rabais, Clément Hervieux-Léger, il faut quand même dire que dans ce spectacle, vous avez demandé à un complice de Patrice Chéreau de collaborer avec vous. Il s'agit de Richard Peduzzi qui a signé la scénographie. Il a signé toutes les scénographies de Patrice Chéreau. Richard Peduzzi, de très belles scénographies. Et quand on voit le décor, enfin, quand on voit cette scénographie qui est à la fois très imposante, très contraignante, mais en même temps très enveloppante, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre et elle se ferme. On a le sentiment que peut-être vous êtes allé chercher la personne qui mettait le cadre dans lequel le débordement pouvait advenir, et que la figure tutélaire, au-delà de Richard Peduzzi étant celle de Patrice Chéreau, est convoquée dans une pièce où il est question de l'adolescence par Clément Hervieux-Léger.
Oui, c'est vrai. Alors, il se trouve que les choses ne se sont pas... fait seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un désir de Richard, mais qui va quand même avec ce que vous racontez. Richard avait le sentiment qu'après la mort de Patrice Chéreau, puis celle de Luc Bondy, il ne ferait plus de théâtre. Et puis, il s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose, et que c'était mourir encore que de renoncer au théâtre. Et un jour, il est venu, m'a appelé en me disant qu'il avait envie qu'on se voie et de parler de ça. Et il m'a dit qu'il avait envie de faire du théâtre et de le faire avec moi. Effectivement, c'était aussi le choix d'une toute autre génération. Bien sûr, j'ai réuni autour de ce spectacle non seulement Richard, mais aussi Caroline de Vivez, Bertrand Couder, c'est-à-dire vraiment l'équipe qui était celle de Patrice au moment où moi je l'ai connue. Oui, il doit y avoir une part d'inconscient là-dedans. Je dois dire que ça a été un accompagnement très joyeux parce que finalement, il était là tout le temps, sans qu'on ait besoin de se le dire. Moi, c'est évidemment pas un secret. J'ai eu cette grande chance de travailler à ses côtés pendant 10 ans. J'ai le sentiment de voir tout, en tout cas d'un point de vue de mon métier.
Là, vous parlez de Chéreau.
De Patrice Chéreau. Et que la meilleure chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de continuer à faire du théâtre.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Alors nous avons tous été adolescents un jour, Clément Avelier, mais pas forcément tous au même âge. J'aimerais que nous fassions dans cette émission un petit pas de côté avec Isabelle Huppert, interviewée par Jacques Chancel alors qu'elle avait 26 ans.
Il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que finalement j'avais pas tellement bien vécu mon adolescence finalement, que j'avais pas eu d'adolescence. C'est-à-dire que j'étais pas très heureuse quand j'avais 16, 17, 18 ans, je crois. J'ai pas eu une adolescence comme ça, légère, heureuse, on sort, on s'amuse. Bon, alors peut-être à cause de ça, je me suis dit que très très vite, il fallait que je fasse quelque chose qui m'intéresse. Et puis maintenant, bon, que je sens que j'y arrive, j'ai peut-être eu le sentiment qu'il fallait que je commence à vivre vraiment mon adolescence maintenant. J'ai pas eu le sentiment d'avoir été jeune jusqu'à présent. Et alors ça, c'est plutôt bien. J'ai plutôt le sentiment en ce moment d'être au début de quelque chose. Et je crois que c'est un petit peu ça, d'être heureux peut-être. Être heureux, c'est probablement avoir le sentiment d'être au début de quelque chose et non pas à la fin. Je crois que les moments dans la vie où on est malheureux, c'est quand on a l'impression qu'on est à la fin de quelque chose, qu'on bute contre quelque chose. J'ai vu il y a une très très belle phrase de Nizan qui dit « Un jeune homme, enfin moi je l'ai prise pour moi, donc on peut aussi bien dire une jeune femme, ou un jeune homme est le seul être qui a le droit de tout exiger et de se sentir volé s'il n'a pas tout. Et moi je me sens volé si j'ai pas tout. »
J'adore cette phrase d'Isabelle Huppert. Je me sens volée si je n'ai pas tout, dit-elle à 26 ans. Est-ce que c'est ça qui anime les jeunes adolescents qui sont dans l'éveil du printemps?
Oui, il y a évidemment de ça, mais encore une fois, différemment. Et c'est très étonnant, cette histoire de l'âge. À un moment, Melchior et Moritz parlent ensemble, et donc de protagonistes principaux de la pièce, et sur la question des excitations mâles, puisqu'il les nomme ainsi. Et Moritz s'inquiète, en fait, de ne pas savoir, là où Melchior semble, lui, être beaucoup plus au courant de ces questions-là. Et Melchior est censé être plus jeune, enfin, il est plus jeune, et il lui dit, mais tu sais, c'est pas une question d'âge. Le Mermaier, il a 2 ans de plus que moi, et il rêve encore que de tarte à la crème et de gelée d'abricot. Et c'est vrai, il y a cette vraie question. En fait, la puberté, c'est pas simplement une histoire d'âge, d'un point de vue du chiffre, de savoir si on a 13 ou 14 ans, ou 15 ou 16 ans, mais c'est simplement aussi la manière dont le corps évolue à ce moment-là. Il y a des jeunes gens qui sont très jeunes, très longtemps, et inversement, des garçons qui, alors qu'ils ont 15 ans, on leur demande toujours leur carte d'identité pour savoir s'ils sont majeurs ou non. Mmh. Mais c'est assez passionnant, cette histoire de l'âge. Et moi, ce qui m'a fasciné en mettant en scène l'éveil du printemps, c'est de voir chaque jour tous ces comédiens aller au fur et à mesure, retourner au fur et à mesure vers leur propre adolescence, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen. Puisque ce que je partage complètement avec Pierre Roman, c'était le fait de ne pas être dans une composition. Donc pour ça, il fallait prendre au sérieux les jeunes gens. Prendre au sérieux ces adolescents, leurs questionnements, leurs angoisses, leurs désirs, leurs doutes. Et ce qui était très beau, c'était de voir que, au fur et à mesure, chacun, Georgia, Christophe, Sébastien, refaisait le chemin tranquillement vers leur adolescence, tant et si bien que on sortait des répétitions et ils avaient l'air d'avoir 15 ans. Et ça, c'était très très fascinant à regarder. Parce que, en fait, j'étais pas maître de ça. Pas du tout. L'écriture de Védekine les a amenés à ça, et leur propre chemin. Moi, il fallait que je les guide. Mais ce chemin-là, ils ne pouvaient le faire qu'eux-mêmes.
Elle est quand même incroyable, cette pièce de Védekine, qui d'ailleurs, je crois, a été qualifiée de pornographique lorsqu'elle est sortie, parce que il met les doigts dans la prise. Hein. Il est question, effectivement, du désir sexuel, d'homosexualité, de masturbation, de toutes ces choses qui sont effectivement associées à cette période de la puberté. Et je me demandais si mine de rien, quand on traite de ce sujet, c'est peut-être pour ça que le théâtre y va si peu. Est-ce que, quand on parle d'adolescence, on manipule de la nitroglycérine? Je repense aux souffrances du jeune Werther de Goethe. On avait dit que le livre avait déclenché des vagues de suicides. Il y a une série qui actuellement connaît un gros succès aux États-Unis et en France qui s'appelle 13 Reasons Why, et dont on dit aussi qu'elle a déclenché aux États-Unis, peut-être pas des vagues, mais en tout cas des suicides. Est-ce que c'est de la nitroglycérine? Et est-ce que le théâtre, au fond, a peur de parler de l'adolescence, de traiter de l'adolescence, de s'engouffrer dans cette impétuosité-là, Clément Hervé-Léger?
Oui, je crois. D'abord, force est de constater que, par exemple, même dans le répertoire dit classique, l'adolescent est très peu présent, à part quelques figures comme Chérubin, qui d'ailleurs est dans un état, lui aussi, de désir fou, mais ou un peu dans la dispute quand même. On peut retrouver ce genre de choses, mais c'est quand même, on en parle très peu de l'adolescence. Et là, Védekine en parle très très frontalement. Et moi, ce qui m'a frappé, et ce qui continue à me frapper quand je vois le spectacle, c'est la réaction des jeunes, et par exemple des lycéens qui viennent voir le spectacle. Parce qu'aujourd'hui, la pièce, elle a été qualifiée de pornographique, elle a été censurée, notamment les scènes de masturbation, etc. Moi, j'ai vu les lycéens venir voir la pièce, on sait très bien que les trois quarts d'entre eux, peut-être tous même, ont déjà vu tout sur Internet, par les écrans, notamment en ce qui concerne la pornographie. Disons, tout vu.
Même les collégiens, je crois, malheureusement.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment... Et ce qui m'a frappé, c'est l'état dans lequel les mettait le théâtre. Et moi, je me suis dit, alors le théâtre a de l'avenir. Parce que, c'est-à-dire que tout à coup, en fait, la question même de l'incarnation, de voir des acteurs devant eux, pourtant plus âgés qu'eux, mais jouer des rôles de leur âge, le phénomène d'identification est d'une puissance qui, effectivement, peut être un peu effrayant. C'est-à-dire que tout à coup, voir ces jeunes gens rire, être en larmes, être gênés. Et c'est ça qui m'émeut le plus. C'est de voir des jeunes gens qui peuvent, a priori, ont accès absolument à tout, être gênés, alors que, par exemple, dans ce spectacle, il n'y a pas de nudité. C'est pas, les choses sont montrées, suggérées, mais enfin, pas de manière... il n'y a pas de nudité. Et bien, tout à coup, un baiser volé, une caresse, un désir contrarié les met dans un état dingue. Et ça, je trouve ça incroyable. Mais en voyant ça, je me dis, oui, c'est quand même un sujet plus que explosif au théâtre.
Mais il n'y a pas de nudité. Par contre, il y a une écriture qui dit tout et disant tout. Enfin, dit tout. Non, justement, elle ne dit pas tout, mais elle montre tout.
Elle est crue.
Elle nomme. Oui. Elle nomme les choses. Il y a une forme d'impudeur dans l'écriture de Védekine. Et c'est là où c'est magnifique de voir le travail que vous avez accompli, parce que vous faites partie de ces metteurs en scène qui veulent que tout soit entendu dans un texte. Clément Hervé-Léger, il n'y a rien qui soit oublié, qui soit mis de côté. Tout est traité. Le petit personnage, le grand héros, la toute petite situation, voilà, vous ne laissez rien de côté et vous emportez tout ça dans ce geste qui vous est propre, qui est ce geste d'une folle sensualité, je trouve. Donc ça vous correspondait à un moment donné d'aller voir cette pièce de Védekine. Mais est-ce que Védekine soulage justement le metteur en scène de certaines images qu'il faudrait fabriquer?
Oui, je dirais, ce qui est magnifique chez Védekine, c'est que, comme vous le dites, il nomme tout et en même temps, il transcende tout par la poésie. Et ça, parce que c'est quand même une écriture qui est d'une... comme le dit le titre, L'éveil du printemps, qui est d'une poésie absolue. Et moi, c'est ça qui me touche particulièrement. C'est quand les auteurs nous permettent de faire avec la vie pour la dépasser. Et je crois que c'est le propre des grands auteurs, c'est ceux qu'on peut monter indéfiniment, qui continuent à nous parler de nous toujours, parce qu'ils sont à la fois ancrés dans leur époque, mais pour aller plus loin, ils sont des visionnaires. Encore une fois, cette pièce, elle a été écrite en 1890, je ne connais pas beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui parlent si justement de l'adolescence.
Je voudrais qu'on écoute une dernière voix dans cette émission, Clément Hervé-Léger, c'est celle d'un pédopsychiatre qui évoque les fonctions des rites de passage dans l'adolescence.
Il a beaucoup de fonctions, la première étant d'être du côté des initiés, alors qu'avant on était du côté des non-initiés. Et initiés à quoi? Initiés à la question de la mortalité et de la sexualité en général. Donc il succède à durée variable à la puberté, au changement du corps, et destiné à marquer justement ce passage de l'autre côté, sur l'autre rive, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont désormais à considérer comme faisant partie du groupe des initiés. il y a parfois même une dimension violente, une violence symbolique qui établit justement qu'on a franchi une étape décisive et qu'on n'est plus du tout, alors on dit pas enfant, on dit non initié, hein, selon les rites. Donc ça a fonctionné dans nos sociétés occidentales sous d'autres formes jusqu'il y a un certain nombre de générations sous forme de rites militaires ou religieux qui avaient une valeur de reconnaissance universelle du passage d'un statut à un autre. Personnellement, je pense que ce terme adolescence a été constitué, on a fait un travail avec des amis pour l'établir vers le milieu du 19e siècle. Et par contre, la puberté, oui, ça c'est éternel. C'est-à-dire les changements corporels qui vont faire passer d'un état d'enfant à un état d'adulte capable de procréer et qui est accompagné socialement par toutes sortes de rituels, chaque société ayant évidemment inventé les siens. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir par rapport au vide laissé par les rituels, l'absence des rituels d'antan, bah, quels sont ceux qui vont éventuellement prendre la place et ne sont-ils pas plutôt initiés par les adolescents, ce qui est un problème, et non plus par les adultes. Mais on peut à ce moment-là plus parler vraiment de rituels de passage.
Voilà, l'histoire des rituels de passage, selon ce pédopsychiatre qui s'appelle Patrice Huer, je n'ai pas donné son nom tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, Clément Hervieux-Léger, parce que d'une part, ça nous permet d'évoquer les parents, c'est-à-dire les adultes, dans cette pièce, on n'en a pas parlé. Et d'autre part, parce que je me demande si au fond, le théâtre, ce n'est pas un rituel de passage, pour toute personne qui se présente devant.
Ah, je pense que oui, le théâtre est un rituel de passage, parce que c'est un moment où on fait l'expérience de notre commune humanité. Et ça, c'est extrêmement important.
Et où nous sommes aussi dépossédés de notre corps en étant fondus dans un corps collectif.
Absolument.
On est un peu adolescent en allant au théâtre, on est pris dans un flux qui va nous modifier.
Oui, et ce fameux complexe du homard dont parlait Françoise Dolto, c'est-à-dire on perd une carapace et avant de construire l'autre, on est nu. Oui, il y a de ça. Et puis, le pédopsychiatre en parle peu, mais il y a aussi cette conscience de la mort, et elle est très frappante chez Wedekind. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est quand même aussi ce moment où on prend conscience que la mort peut être choisie. Et ça, c'est quand même tout à fait fascinant. Et d'ailleurs, la mort est très présente dans cette pièce. Au bout du compte, de ces jeunes gens, entre Ilse qui elle-même dit qu'elle brûle sa vie et qu'elle va finir à la poubelle bien avant eux, Moritz qui se suicide, Venla qui meurt dans un avortement, et Melchior qui fait, oui, le choix de la vie en suivant cet homme masqué, mais qui n'est pas une vision d'ailleurs de la vie extrêmement séduisante. Simplement, cet homme lui dit, tu ne sauras qui je suis qu'à partir du moment où tu accepteras de me suivre, ce qu'est la vie, c'est-à-dire nul ne peut savoir ce que sera sa vie tant qu'il ne la vit pas. Et c'est cette conscience-là aussi. Et Isabelle Huppert disait tout à l'heure qu'elle n'était pas particulièrement heureuse quand elle était adolescente, mais au bout du compte, on a des élans de bonheur quand on est adolescent. Mais je ne connais pas beaucoup d'adultes qui aujourd'hui disent « toute l'adolescence a été un grand moment de bonheur ».
Que celui qui dit ça lève la main.
Oui, c'est ça. Donc, C'est aussi ce rapport à la mort que je trouve très, très fascinant et très juste, et en plus très sensuel, pour le coup, pour reprendre ce terme chez Wedekind, parce que la mort frôle.
Vous êtes bien entre le solaire et le crépusculaire, Clément Hervieux-Léger, sur une scène de théâtre.
Il paraît.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, I'm moving further away. Won't you need me?
Merci beaucoup à vous, Clément Hervieux-Léger, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle les dates de votre spectacle, L'éveil du printemps, qui se tient lui aussi entre le solaire et le crépusculaire. C'est à la Comédie Française, salle Richelieu, et c'est jusqu'au 8 juillet. Vous pouvez, même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Anthony Thomasson, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent, bientôt 16h. Restez à l'écoute, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
can't take no more. Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand behind a closed door.